All right, on parlait de papillons en fête juste avant la pause. On vous a fait tirer un petit cadeau familial pour toute la famille. C'est une bonne valeur, là. C'est un beau cadeau à offrir à ses enfants. Papillon en fête, c'est au Jardin Amel, sur le boulevard Amel. Puis Audrey, la bonne réponse, c'est le 6029 boulevard Amel. C'est à l'ancienne Lorette. Donc, salutations à tous ceux qui ont eu la réponse. Et bonne chance, c'est Audrey qui va vous choisir.
Je vais saluer Myriam Desrosiers, qui est notre gagnante. Elle dit qu'elle va y aller avec ses trois enfants. Puis elle a bien heureuse d'avoir une activité en vue de la relâche.
C'est très cool. On embarque dans une grosse discussion, les amis, avec Mademoiselle V, alias Valérie Langevin. Salut, Mademoiselle V, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Loin. Là, on va faire... on va faire un petit...
C'était pas convaincant.
Non, c'était comme un peu en suspens.
On va faire un avertissement. OK.
Okay.
Tout ce qui va se passer dans les prochaines minutes dans votre tête, là, on n'est pas responsable de ça.
Là, tu as peur de briser des couples.
Quand j'étais jeune, j'en faisais une spécialité. Mais rendu à l'âge que j'ai, je sais que quand j'étais jeune, j'étais un peu con. Fait que,
non, mais ça, on peut être responsable d'un cheminement sain.
Oui.
Moi, je dis pas non.
Cheminement sain, moi, j'embarque là-dedans. Mais soyez bien conscients que ce qu'on va jaser là, ça se peut que ça heurte. Que ce soit votre personne ou que ce soit l'autre personne, l'être aimé. Fait que ça va brasser pas mal. Comment t'en es venue à choisir ce sujet-là, Mademoiselle V?
Bien, en fait, moi, je propose plein de sujets variés, autant au niveau des couples qu'au niveau des pathologies, puis tout ça. Je lance ça un peu dans les airs, puis je me dis, après ça, c'est à vous de déterminer de ce qui vous tente de parler. Mais ça, je trouve ça important d'en parler parce que, bien, aujourd'hui, on va parler, on l'a même pas dit, en fait. Là,
Oui, bien, en fait, moi, je l'ai dit tantôt, c'est les signes que ta relation que tu as actuellement est en train de se terminer.
Oui. Puis ça, souvent, on le sait déjà à l'intérieur de nous.
Combien
je vous apprendrai rien.
Combien de personnes se posent la question? T'sais? Parce qu'il y en a, j'imagine, qui restent ensemble par habitude. Là.
Tout le monde se pose
est-ce
la question.
Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, bon, je réfléchis à ça, là, notre couple, où est-ce qu'on en est rendu et tout ça? Je sais qu'il y a des gens qui font des meetings chaque semaine avec leur conjoint-conjointe. Moi, je n'ai jamais été de ce type-là. Là. Un meeting, ça me gosse, imaginez-vous, s'il faut que je le fasse à chaque semaine avec ma conjointe, ce serait épouvantable, mais c'est peut-être la raison pour laquelle ça n'a jamais fonctionné, mes affaires. Fait que prenez pas exemple sur moi, combien de personnes sur 100 se posent cette question-là? Est-ce que mon conjoint ou ma conjointe, c'est cette personne-là avec qui je veux finir ma vie?
Bien, je pense que tout le monde se pose la question. Même ceux qui sont vraiment très heureux en couple finissent à un moment donné à avoir une dispute ou un moment de non-communication ou une panne sexuelle qui arrive dans tous les couples. Puis là, la machine commence à tourner dans notre tête. Puis veut pas, avec la facilité d'aujourd'hui, je veux dire, demain, là, une beauté sauvage et comme Audrey devient célibataire.
Je me suis levé les yeux, je me suis dit, elle est donc bien gentille.
Une
mais
beauté
finalement,
sauvage.
Audrey.
Oui, imagine-la sur un cheval, là, sur la plage.
En tout cas, Audrey, sur un cheval.
C'est ça. Mais c'est facile, ça va être relativement facile pour elle de trouver quelqu'un. Peut-être pas quelqu'un de saint d'esprit, mais quelqu'un. Hein?
Ouais. Ouais, j'ai mon lot de pas saint d'esprit. Ouais. Là,
là-dessus, je te suis. Salut à ça, petit chum.
Non, lui, il l'est. C'est l'exception à la règle.
C'est pour ça qu'elle est avec. Donc, autrement dit, ça devient tellement facile aujourd'hui. Tout ce qu'on a à faire, c'est se loguer sur Tinder. Et vous le saviez, hein, seulement 33 % des gens sur les sites de rencontres sont réellement célibataires. Les autres sont en couple. Donc, vous pouviez y être sans même... Tu sais, peut-être que je sais pas, moi, si j'étais en couple, mon conjoint serait tube, je ne saurais même pas. Là.
OK, mais ça, c'est une affaire. Peut-être que les auditeurs sauront m'aiguiller là-dessus, là, au 418-971-1021, mais tu me dis que 30 % des gens qui sont sur les applications sont célibataires.
Réellement,
il y en a combien d'ententes dans les couples? C'est-à-dire, regarde, tu peux aller chercher une petite femme ou un petit gars à l'autre côté, puis je vais fermer les yeux, ça fait quand même 20 ans qu'on sort ensemble, tu peux aller voir ailleurs. Il y en a combien qui le font dans le secret, là?
Ah, il y a un certain pourcentage,
c'est
sûr.
Des connaissances de leur conjoint-conjoint?
C'est certain. Il y en a qui doivent le dire puis qui ont entente ensemble, mais je veux dire, tu dis pas tout, là. Même si tu as une entente, tu te dis, OK, tu te passes droite.
Ouais.
Parce que moi, pas donner de détails.
J'ai quelqu'un que je connais bien, pas très loin d'ici, qui m'a dit « Yann, tu peux changer ton kilométrage. »
Fait
que si quelqu'un voyage, exemple, Québec-Montréal, lui, il est à Québec, il sait que sa blonde est à Québec, il sait que sa famille est à Québec, ses amis sont à Québec, il s'en va à Montréal, bien, il peut réduire le nombre... Il s'inscrit sur Tinder et réduit le nombre de kilomètres de sa destination, c'est-à-dire Montréal. Puis les gens de Québec ne le verront jamais sur le réseau.
Il peut dire, je veux des rencontres à 5 km autour de moi.
5 km.
Oui, mettons, tu sais. Fait qu'effectivement, ça peut être excessivement facile de se faire un compte. Puis ce qui est beau avec ces applications de rencontres-là, c'est que tu peux s'enfermer ton compte, shut down l'application.
Mode fantôme.
Exact. Fait que le moment, mettons, où tu décides que tu le réinstalles, t'as pas à te refaire un profil. Ton profil est comme toujours actif.
OK.
Fait que, tu sais, mais toi, dans ta vie, là, bon, on va prendre Max en exemple. Mettons Max dans sa vie qui est très actif sur
Pauvre
Tinder.
Max.
Fait une blonde,
Max,
Max c'est
n'est plus
exemple.
Actif sur Tinder. Il attend Tinder 2 maintenant.
Ah oui? Tout le monde le sait.
C'est toujours lui qu'on prend comme
il a fait
exemple.
Le tour.
Il peut avoir le même profil toute sa vie, mais juste l'éteindre quand il est en couple, le rallumer. Tu sais, fait qu'il n'y a pas besoin de recommencer à zéro à chaque fois.
Faudrait peut-être qu'il change de photo, là, parce que là, c'est la photo de 5 ans.
On travaille
là-dessus. Ça change, il y a moins de cheveux encore.
On travaille sur ça. Mais je pense, je suis d'accord avec ta statistique, bref, Mademoiselle V, parce que je suis convaincue que tout le monde dans sa vie, à un moment ou à un autre, se pose la question à savoir si tu es à la bonne place avec la bonne personne et est-ce que ça va marcher à long terme.
C'est vraiment très, très difficile. Puis, tu sais, je veux dire, veux, veux pas, c'est pas... Quand on en vient à se poser la question sur la rupture, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui trotte dans notre tête depuis un bon petit bout de temps, en général. Il faut penser aussi qu'à partir du moment où toi, tu vas décider de quitter la personne, hein, toi, ton deuil, là, il existe depuis longtemps. Hein, tu y as pensé depuis des années, voire des mois, des semaines. Elle, ça va commencer du jour au lendemain. Là.
Des années, Mademoiselle V. Oui. Il me semble que ça, tu sais, ta conjointe t'a dit depuis des années, je me pose des questions.
Absolument.
C'est cruel. Là.
On parle de 5, 3, 4, 10 ans, des fois, avant de sortir de ça. Puis la raison, ça, mais il y a plein de raisons. Là, il y a les questions, la question monétaire, les enfants, la peur d'être tout seul. Puis il y a aussi le fait d'être amoureux d'une version de ton chum qui n'existe plus,
qu'il va revenir.
Penses qu'il va revenir, exactement. Ouais. Et ça, c'est probablement la plus grosse. Puis dernièrement, je vais vous servir deux statistiques très, très importantes. Premièrement, le divorce est à 70 % instauré par la femme. Et ça monte à 85 % quand on parle d'une femme qui possède des études post-universitaires. Donc, qui est indépendante financièrement ou qui possible de l'être.
Puis est-ce que c'est la tromperie qui encourage ça?
Ben, non, en général, c'est le fait que la femme va demander des changements en général dans son couple, va lever les choses qui plus ou moins font son affaire. Puis souvent, l'homme va le prendre comme un reproche. Bon, là, c'est le gros classique que je vous donne. Ça se peut très bien que ça soit. On généralise à fond, là. Mais en général, t'es tout le temps en train de remonter les mêmes problèmes. Mais là, il y a ci, mais il y a là ça.
Puis nous autres, on réfléchit, hein? Puis, on garde ça avec notre petite carte pendant que vous autres, vous changez rien. Elle peut m'amener, mais c'est trop.
Oui, à un moment donné, la to-do list, elle devient trop importante. Puis on se rend compte que l'autre ne va pas changer en tant que tel. Puis à ce moment-là, il y a aussi en parallèle la libido qui diminue. Parce que là, la personne qui est à côté de toi dans ton lit, c'est pas celle que tu as choisie, c'est celle qui est devenue avec le temps ou que tu voudrais voir changer. Donc, automatiquement, l'intérêt sexuel est moins là. Puis bien, l'homme aussi se fatigue de son côté à ce niveau-là. Fait qu'éventuellement, les deux finissent par se faire dos à dos.
Fait que le changement de partenaire peut augmenter la libido là, comme un piton de lumière.
Oui, mais est-ce que ça va durer avec le temps si vous ne faites pas les efforts que vous n'avez pas faits dans votre premier couple? Le deuxième ne va pas nécessairement... C'est sûr qu'il y a une prédisposition là, d'un fois avec certaines personnes, mais je veux dire, si tu ne mets pas les efforts dans ton second couple, il ne va pas plus durer que le premier.
C'est le principe de l'herbe plus verte chez le voisin,
voilà.
Finalement.
Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ouais.
Mais ça, j'en parlais avec une de mes amies qui est propriétaire d'une application de rencontre qui n'est pas Tinder. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est que entre chaque relation, tu dois faire un genre de post-mortem. Là,
absolument.
Sur cette relation-là qui vient de se terminer, mais sur,
deuil,
sur toi, tu sais. Est-ce que tu es complet comme personne? T'es-tu une personne complète, tu sais? Est-ce que toi, quand tu es avec quelqu'un, c'est parce que tu ne deviens qu'un? C'est elle ce qu'elle expliquait, puis j'imagine que tu vas m'embarquer là-dedans aussi, parce que vous parlez toujours de ça.
On parle toujours de
quand t'es complet, tu rencontres quelqu'un, ça devient un plus pour toi.
Ouais.
Et non pas
la moitié
de toi. Mm-hmm. Parce que nous, on est supposé être complet.
Exactement.
Alors, toi, tu vas me dire que je suis au corps, là. Mais on est supposé d'être complet en tant qu'individu. Fait que le post-mortem de cette relation-là, tu dois le faire, à mes yeux, à moi, tu me diras si je me trompe.
Absolument.
Puis après ça, ben, tu dois te dire, OK, faut que j'apprenne pour la première fois de ma vie à vivre seul pendant un certain temps. Te rebâtir. Puis savoir qu'est-ce que tu veux aussi comme nouvelle relation. Tu veux-tu encore habiter avec cette femme-là ou ce gars-là? Tu veux-tu un couple qui va se fréquenter ou un couple qui va être vraiment connecté ensemble pendant des années et des années? Parce que il y en a maintenant qui font maison à part, puis ils se voient trois fois par semaine.
Ah oui?
C'est l'amour fou,
ah oui?
Mais ils se voient trois fois par semaine.
Oui.
Bien, moi, demain matin, mettons, là, je suis dans la cinquantaine, là, j'ai mes enfants, ma vie est faite, puis je rencontre quelqu'un parce que je suis célibataire. Assurément que je garde mon petit terrain. Là. Je garde mon chez-moi, puis on va se fréquenter. Là. On va triper, puis on va se voir trois fois par semaine.
Puis plus on vieillit, moins on est capable de faire des compromis.
Ton plan est déjà fait, toi.
Absolument. Mais non, mais mon plan initial, c'est de rester avec mon chum, là.
Mais non, okay. Mais tu m'appelleras Audrey, là, on ira vivre dans une
résidence. C'est ça, résidence, générationnelle, je sais pas quoi.
Ouais,
là,
on fera du yoga le midi, puis aller au McDonald's à 8h le matin.
Question pour toi, avant qu'on se lance là, dans les signes à surveiller, là, une pause.
Ouais.
Il y en a qui croient à la pause et il y en a qui n'y croient pas du tout. Il y en a qui se disent un break, c'est juste le début de la séparation, c'est parce que vous n'étiez pas dû. Puis il y en a pour qui, au contraire, c'est le moment justement peut-être de faire un pré-post-mortem avec Tucci.
Mais moi, je le vois comme un outil. C'est un outil que tu peux utiliser pour possiblement remettre un peu le désir dans ton couple. Parce qu'on a compris que quand on fait une pause, ça laisse la place à... C'est comme si les affaires se replaçaient un peu par elles-mêmes. Veux, veux pas. Le temps fait bien les choses. Mais là, attention, la pause, il faut la respecter aussi. Là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit minimum 3 semaines jusqu'à 3 mois, moi je recommande, sans contact.
Hein? Non,
donc, c'est-à-dire de ne pas avoir de contact aucun, ni par intérim. C'est-à-dire, tu n'appelles pas sa mère pour dire « Y'a-tu mangé à matin? »
Est-ce que la fidélité doit rester
ça, c'est quelque
présente?
Chose que vous devez voir entre vous, parce qu'il y a des couples qui vont dire « Non, écoute, 3 mois, c'est trop long. » Puis en même temps, ça peut faire partie de la réinsertion du couple d'aller voir ailleurs. Ça a l'air niaiseux, là, mais des fois, il y en a qui ont besoin de vivre ce qu'il y avait à vivre pour se rendre compte que finalement, l'herbe n'est pas si verte que ça chez le voisin.
Mais ça, mademoiselle V, les breaks, on faisait ça quand on était jeunes beaucoup. Là. Mm-hmm. Puis là, j'ai eu des gens qui sont dans mon entourage qui ont fait un break pendant quelques semaines, puis ils sont revenus ensemble.
Ouais.
Mais j'ai l'impression que moi, quand on faisait des breaks, quand on était jeunes, c'était pour mettre la personne qui était avec nous de côté pour dire hey, « je vais-tu m'ennuyer? » Mais ce break-là devrait nous servir à un peu. C'est quoi cette relation-là? Moi, qu'est-ce que je peux apporter de plus dans cette relation-là?
Qu'est-ce qui fait en sorte
que je peux être néfaste pour cette relation-là? Mais quand on était jeune, on n'avait pas cette réflexion-là. J'imagine que les plus vieux, mettons, 30, 40, 50, doivent justement regarder eux, comment ils agissaient dans cette relation-là.
Il faut, puis c'est souvent là qu'on va suggérer de consulter quand vous vous séparez, là, puis ou vous êtes sur le point de vous séparer ou vous n'êtes pas sûr si vous voulez vous séparer. Consulter un thérapeute est probablement la meilleure chose à faire. Ça va vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées, puis ça va vous permettre de prendre votre décision 2 fois plus vite. Puis c'est pas rare de voir des personnes qui sortent de thérapie dire « OK, je suis prête ». Je l'annonce, puis là, il y a le conjoint qui dit « Bon, mais là, tu as décidé de me quitter après avoir commencé à consulter. » Le psychologue t'a dit de me quitter. Ça, je l'entends souvent, tu sais. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment parce à cause du travail que la personne fait sur soi-même, elle se rend compte qu'elle a besoin d'autre chose. Puis bien, à ce moment-là, le processus de séparation se met en branle.
Ça brasse effectivement des affaires pour certains auditeurs. Il y en a qui sont dans ce processus-là en ce moment de
Je m'en excuse.
C'est les maudites dépendances, mademoiselle V.
Oui.
Tu sais, les dépendances, on a tous déjà eu notre petite dépendance à...
Chip au ketchup, dans mon cas.
Non, mais je veux dire, il y en a qui sont dépendants... financièrement.
Absolument.
Il y en a qui sont dépendants émotifs. Là. Ils ont besoin absolument de l'autre personne. C'est une dépendance affective. Il y en a qui sont dépendants au noyau familial.
Oui.
Tu ne veux pas te séparer de ce noyau familial-là. Tu as des raisons en passant qui sont très valables. Mais tu restes là même si tu es malheureux. Mmh. Nécessairement, un jour, ça va avoir un impact sur tes enfants.
Bien, c'est ça. Tantôt, je vous parlais des statistiques. Là. J'en ai une que je veux vous donner là, parce qu'elle est importante. Ce n'est pas ce qui s'est passé comme divorce ou comme couple qui est important pour l'enfant. Semblerait-il que les recherches démontrent que ce qui fait qu'un enfant va être heureux dans une relation future, c'est de voir à quel point sa mère était heureuse elle-même dans une relation. Donc, c'est le bonheur de la mère quand on grandit qui est vraiment au centre de ce qu'il va retenir. Donc, si ta mère est malheureuse parce qu'elle n'ose pas partir, parce que, bon, elle n'a pas travaillé depuis 10 ans puis qu'elle va finir serveuse dans un casse-croûte puis qu'elle ne trouvera pas d'appartement en bas de 5 000 $ par mois...
C'est ça qui marque.
C'est ça qui nous empêche d'avancer, mais sachez que c'est pas ce qui va marquer vos enfants. Vos enfants vont être corrects à vivre dans un HLM puis aller dans des banques alimentaires si vous êtes heureux ou heureuse.
C'est assez particulier quand on dit ça. Là.
Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, puis tu sais, je l'ai vécu moi-même. J'ai eu des difficultés quand je me suis séparée. Puis mes enfants, à moi, tu sais, sont passés d'une grande maison pleine de jouets à un petit logement tout petit parce que justement, là, ma capacité d'achat diminue de moitié, tu sais. Puis, ben mes enfants, des fois, ils disaient, maman, on n'a pas le goût d'inviter des amis, c'est tout petit, tu sais, c'est pas comme on est habitué, puis tout ça. Puis, ça fait mal au cœur, mais aujourd'hui, si je demande à mes enfants s'ils pensent que j'aurais dû rester dans une relation où j'étais malheureuse, la réponse serait non, j'en suis certaine.
Puis, même quand tu auras des conversations avec eux, lorsqu'ils auront 25, 30 ans, ils vont dire que tu avais fait la meilleure affaire que tu pouvais faire.
Ils me l'ont déjà dit. c'était assez évident que c'était pas sain comme relation.
Détruire le noyau familial, t'sais, détruire, c'est un mot qui est assez hard, là, parce que c'est dur de le faire. Moi, je l'ai fait.
C'est très difficile.
J'ai entamé la conversation avec la mère de mes enfants, elle était parfaitement d'accord. Puis, je te dirais pas que ça a été super bien reçu au départ, parce que moi aussi, je souffrais de ça. Mm-hmm. Mais après ça, t'sais, on s'est encore parlé la semaine passée à quel point on est rendu un exemple de bonne séparation pour nos enfants, mais aussi notre entourage. Alors qu'au départ, les gens comprenaient pas trop la relation qu'on avait. Mm-hmm.
Ouais.
Puis c'est sain, on se parle de ce qui se passe avec nos enfants. Puis des fois, ben, à l'heure de moins bien filer, elle m'en parle, je fais le moins bien, j'y en parle. Mais mes gars, ils vont me remercier de ça plus tard, même si je suis parti de la maison, puis mon plus vieux me l'a reproché en disant « Pourquoi t'es parti? Tu m'as abandonné. » Ça, c'est raide la première semaine.
Ça fait mal au cœur.
Tu sais, moi, je suis parti avec ma poche de hockey puis mon Xbox, là.
Puis, c'est pas drôle.
J'avais
c'est
pas de lit, là. J'avais loué un petit appart.
On recommençait à zéro.
Un petit appart de transition en arrière de la pyramide, là. Puis, c'est un genre de 2,5 sur 2 étages, là, avec une petite galerie, là.
Ouais.
Penthouse, un petit mezzanine.
Mezzanine. Ouais. Fait que là, tu mets le lit sur la mezzanine, puis t'as tes petites affaires en bas, puis là, tes gars viennent te voir, puis là, ils se rendent compte que tu vis plus dans la maison que eux autres vivent. Fait qu'ils te posent des questions. Mais j'avais pas de meubles, là. Ta première semaine, tu dors à terre. Tu repars à zéro, là.
Ah non, mais
c'est,
ça prend
c'est
du
rough,
courage.
Là.
Tu sais, on en parle comme si c'était facile, là, de se séparer. Tu prends la décision pour toi, faut que tu sois heureux, là. Mais ça prend du courage, hein.
Après le décès de quelqu'un, c'est la plus grosse épreuve que quelqu'un peut vivre. C'est un deuil à part entière.
T'as le deuil familial à faire. Fait que là, tout d'un coup, tu vois des belles photos sur les réseaux sociaux, tu cliques sur la photo, ah, c'est une belle photo de famille, ça. Puis là, tout d'un coup, l'algorithme détecte que t'aimes les photos de famille. Fait qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ils te pitchent des photos de famille, puis toi, t'es seul
tu
dans ton appartement
t'es
à dormir
pas
à terre.
Dans ton appart?
Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est quand...
Je referais la même affaire demain matin, là.
Ben oui, moi
voyant
aussi.
Voyant ma situation-là, avec mes enfants, puis la mère de mes enfants, je savais que c'était la meilleure des affaires.
Ce qui est le plus dur, c'est quand il y a un autre conjoint qui rentre dans le portrait.
Ouais, ça, faut que t'attendes qu'elle s'en trouve un.
Pour lui
avouer que toi, t'en as 10.
Ah oui, c'est un bon truc. Ouais. Je vais le retenir.
Mais c'est sûr que ça doit être difficile.
Ouais, elle a de la misère avec le chiffre 10, là, mais elle l'accepte.
Oui, bien, tu sais, tout d'un coup, il y a une autre maman qui donne le bain à ton enfant. Hein? Ouais. Tout d'un coup, il y a une autre maman qui donne des conseils sur comment tu devrais coiffer tes cheveux le matin ou qui fait des tresses à ta fille. C'est énervant, puis c'est fâchant. Même si cette personne-là, c'est une bonne personne, ça va toujours. Et c'est une épreuve de plus. Tu fais le deuil de ton couple, le deuil de ta famille, puis le deuil de plus être la seule mère au sein de ton foyer. C'est au sein du foyer familial, si on veut.
Ça peut être quelque chose parce que je vous écoutais parler parce que j'ai pas d'enfant, fait que j'ai pas vécu ça. Puis je me disais, crime, ben moi j'instaurerais, genre, on a un déjeuner ensemble le dimanche, tu sais, en famille originale. Mais c'est parce qu'à maintenant, effectivement, il y a les conjoints qui s'ajoutent, puis ça devient une autre histoire.
Puis ça se peut que ce soit la meilleure personne, comme ça se peut que ce soit une personne qui s'entende pas pendant tout avec toi. Ça se peut que ce soit une fille qui a pas confiance en elle, puis quand elle va te voir. Elle va te regarder les fesses, elle va te regarder la face, puis elle va dire « Non, moi, elle, je veux pas avoir dans ma vie. »
La rivalité entre femmes, là, est assez importante dans ce domaine-là.
Attends, c'est particulier, mais quand t'as appris que tes ex avaient des blondes, t'as-tu été se faire un tour sur leur Facebook?
Mais attends.
Sous un faux profil.
Non, mais, ouais, c'est ça. Attends. Non, mais moi, attends, je me suis fait tromper, Yann. Okay. Fait que c'est sûr que j'allais voir la fille.
Ouais.
Tu sais, j'ai été cocu, là.
C'est ça. Mais tu t'es comparé.
Mais c'est de la curiosité.
Je pense que c'est une curiosité d'avec qui il a décidé de partir pour me laisser tout seul au Saguenay, mettons.
C'est...
Mais oui. Oh. Mais t'as raison. Je pense qu'il y a une curiosité, veux pas, mais un gros comparatif, il y a une limite à buzzer, mettons. Mais c'est parce qu'il faut que tu sois bien avec ta décision aussi.
Mais regarde, elle croit encore au conte de fées. Regarde son chandail.
J'ai un chandail de princesse.
Les quatre princesses.
Ouais, moi, je crois encore
laquelle, au prince charmant. Laquelle te définirait le plus?
Mon chum n'est pas super romantique, mais je crois encore au prince charmant.
Oh, le...
Moi, c'est Belle.
Ouais. Ah oui?
Non, la Belle et la Bête. C'est un beau chandail pour faire de la peinture.
Yannick Marceau, il est fait de même, il est vintage.
Ah, excusez.
Il se vend comme ça.
Ah, OK.
Ah, ouais, OK.
Oui, oui, il est vraiment. C'est pas des cracks faits avec le temps, là. Il est vintage.
C'est comme les jeans avec des trous.
C'est ça. Mais parce que tu l'as acheté, tu ne l'as pas fait donner.
Je me le suis fait donner par une de mes très bonnes amies. Okay. C'est un de mes chandails préférés.
Ça se comprend mieux, ouais.
Hey, le gars s'habille comme si on était en 2012, puis il se permet de juger le style des autres.
2011. Fait que bref, c'est ça. On a des deuils à faire, mais
ouais.
Tu sais, après quelques mois de mon côté, là, après quelques mois, je me suis dit, je referais la même chose demain matin, même si ça a été extrêmement souffrant.
Oui.
Ah, tu vois, il y a des textos qui rentrent. Là. On a annoncé aux enfants la séparation dimanche dernier. Des moments vraiment pas faciles, mais un bon choix après des années à pas être heureuse.
Oui, non, c'est ça. Faut penser à soi. Je sais que ça a l'air égoïste de dire ça, mais pensez à vous, veux pas, en avant. Si vous êtes heureux, vos enfants vont être heureux. Puis je le sais que, hey, moi, quand ils m'ont dit ça au début, quand je me suis séparée, je voulais-tu les arracher la tête un peu, toi? Ça ou ne t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un de mieux, tu me remercieras un jour.
Oh,
hey, le 2x4, où là, tu partir, toi, tu
c'est
penses.
C'est pas toi, c'est moi.
Exactement. C'est le genre de choses qu'il faut pas dire. Donc, c'est frustrant, mais malheureusement, oui, effectivement, on finit par se refaire.
Mais c'est pas toi, c'est moi. Je veux dire, quand tu laisses quelqu'un, c'est pas le temps de se faire des reproches, là.
Non, mais il y a une façon de le faire.
Tu es en train de détruire son univers.
Ouais, mais ça, c'est la pire affaire du monde, là. T'es parfaite, c'est vraiment moi, là. Non, non, fuck off, là. Il y a clairement des affaires qui marchaient pas entre nous deux pour que ça termine. Dis-moi pas, c'est pas toi, fait c'est moi.
Pour te faire progresser en tant que personne, toi, tu veux recevoir toutes ces informations-là.
Absolument.
OK.
Ben, tu sais, les choses qu'il faut pas faire, là, bon, entre autres, c'en est un, ça, hein?
C'est important.
Ben oui, il faut pas dire à l'autre, tu vas voir, ta vie va se refaire. La personne n'a pas envie de savoir que sa vie va se refaire.
Ah, on n'a rien à foutre de tes solutions.
Mais tu peux... Sors le 2x4. Hein? Tu peux, par contre, le rassurer sur les moments que vous avez passés ensemble qui valaient dire quelque chose, par exemple. De dire ce qu'on a vécu ensemble, c'était pas nécessairement...
C'était pas rien.
C'était pas rien. Ouais. C'était quelque chose pour moi aussi. Puis je vais toujours m'en souvenir. Mais à partir de ce moment-ci, ces moments-là sont plus possibles. Puis ça finit là. Fait qu'il faut éviter d'encenser la personne en tant que telle. Okay. Je sais pas si vous voulez savoir les autres affaires qu'il faut pas faire.
Ben oui, ou... ben oui.
Mettons,
absolument.
Vu qu'on
après
est déjà
ça,
dans
moi, j'aimerais ça aussi qu'on parle des signes, que c'est le temps que ça arrête, parce que je lis les textos puis je sens qu'il y a des gens qui sont dans des réflexions.
Exactement, on va regarder ça. Si je vais très rapidement sur comment quitter la personne, soyez vraiment certain et soyez sûr qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Okay? Parce que là, la personne va sortir des menaces, des pleurs et tout ça. Fait que d'un fois, ça peut être tentant de revenir en arrière, mais sachez que le deuil pour cette personne-là commence à partir du moment où la porte est totalement fermée seulement. Donc, s'il y a ouverture, ça ne marche pas. Le moment opportun, s'il vous plaît, ne faites pas ça à Saint-Valentin, Noël, votre anniversaire de couple, son anniversaire. Un endroit neutre, c'est important. Pas de SMS, pas de téléphone, s'il vous plaît.
Hey, ça, le pauvre. Hein? Non, mais je pense que c'est là où j'ai le moins de respect pour quelqu'un.
Oui, bien, tu rencontres face à face, mets fin face à face.
Y a-tu encore des adultes qui font ça?
Oui,
laisser les gens par...
50% des gens utilisent un moment déterminé pour mettre fin à leur relation.
OK. Parce que j'ai entendu dans un podcast en fin de semaine un gars qui est arrivé chez eux, puis la chambre des enfants était vide. Sa blonde avait quitté le nid familial, puis elle n'avait jamais rien dit.
C'est tellement irrespectueux.
Elle avait donné un bec le matin quand il est parti, puis elle a dit « je t'aime ». Puis quand il est revenu, la maison était pleine, sauf les chambres des enfants où tout était parti.
Souvent, la personne qui est quittée ne s'en doute absolument pas va arriver.
Mais cela dit, je ne sais pas si le gars est un violent, que ce soit verbalement ou physiquement. Dans ce cas-ci, je comprendrais la fille de faire ça. Mais lui, il avait appelé la police pour dire « Hey, elle m'a enlevé mes enfants. » Puis finalement, ça a bien tourné l'histoire. Elle a juste sacré son camp parce qu'elle était écœurée de lui.
Ouais.
Elle n'était pas assez mature pour lui dire.
Mais parlant d'enfants, là, si vous devez quitter quelqu'un puis vous avez des enfants, s'il vous plaît, prévoyez du gardiennage pour vos enfants pour les prochains jours.
Ben okay?
C'est pas le temps là, de laisser les enfants à l'un ou l'autre. C'est le moment de s'assurer qu'on a un backup pour eux autres.
Okay. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous dit « On a passé 2 semaines, moi et mon ex, à se demander comment annoncer ça à un enfant de 6 ans, appréhender la peine de notre fils. » Puis quand on lui a dit, il nous a répondu « Ah, je vais être comme tous mes amis. » Boum! Finalement, on avait appréhendé absolument pour rien.
Ouais, ben veux pas, les enfants sont très résilients. Hein, avec, oui, oui. Ils vont s'en sortir plus vite que vous autres, ça, je peux vous l'assurer. Je l'ai vu souvent.
Ils réagissent aussi, je pense, un peu dépendamment de ta réaction à toi.
Ben
là.
Oui, si tu vois ça comme si la Terre arrêtait de tourner, comment tu veux qu'ils fassent autrement? Oui, je veux dire, les autres, ils marchent dans nos empreintes. Fait que si pour toi, ça demeure quelque chose de relativement possible, ça va l'être pour eux aussi.
Les signes que c'est le temps que
ouais.
ça arrête...
Oui, il y en a une couple. On va commencer la communication puis le dialogue qui est absent. J'imagine que vous vous en doutiez. Hein. Si votre dialogue est pauvre, qu'il n'y a pas d'échange, c'est un signe qu'il y a une grave détérioration de votre couple parce que n'oubliez pas que la communication est le premier, la première, l'outil de gestion du couple par excellence. Donc, c'est comme un char pas de moteur. S'il n'y a pas de communication, ça ne fonctionne
on
pas.
On l'a eu celle-là parce qu'elle est tellement cliché, mais elle est vraie.
Mais c'est la première puis c'est pas pour une... C'est parce que ça vraiment important.
Oui, mais moi, je suis là pour mettre du sable dans l'engrenage. Là,
oui,
mais
vas-y.
Tu sais, en même temps, il y a des couples qui sont ensemble depuis 10, 15, 20 ans qui n'ont pas besoin de se parler constamment. Tu sais, quand il peut y avoir des gros conflits, là, tu sais, ils laissent aller quelques minutes, quelques heures, puis ils continuent de se parler, se côtoyer, puis après ça, on passe rapidement à d'autres choses. Puis quelques semaines plus tard, on reparle de cet événement-là, puis on en rit, tu sais. Voici comment moi, je l'avais perçu. Tu sais, des fois, le temps peut faire le travail aussi, plutôt
oui.
que la communication verbale constante. Moi, le premier, là, je déteste les meetings, là, que ce soit à job ou encore avec ma blonde. On s'assoit, on prend le temps de régler un conflit. J'ai bien de la misère avec ça, surtout quand c'est banal.
Oui.
Quand c'est majeur, je comprends la technique. Là. On s'assoit puis on le règle, sinon on quitte.
Le problème, c'est que quand c'est majeur, souvent, ça ne devient pas un automatisme parce qu'on ne l'a pas fait pour les choses non majeures.
Oui, c'est ça.
Fait que ça devient qu'on ne sait pas comment fonctionner dans le moment de la crise. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire au quotidien. Mais là, ce n'est pas parce que je vous dis une affaire que votre couple est en péril, là, rassurez-vous. Hein, c'est quelque chose qu'il faut avoir plusieurs aspects pour
ça
dire.
Parce que les psychologues Yvon Dallaire, avec qui j'ai fait le plaisir de jaser dans
ouais.
le temps, me disait « Les couples heureux sont capables de passer par-dessus les petits bobos de la vie. »
Oui.
Puis ils sont capables de rire des bobos de la vie.
Oui.
Puis des fois, ben, y a des petites affaires qui arrivent. « Monsieur est bête, madame est bête. » Puis on laisse le temps passer, puis ça revient tout simplement.
Il y a une question d'auditeur que je trouve très pertinente.
Oui.
Quand ma blonde prend quelques bières, elle se choque et elle devient un peu une autre personne qui crie et parfois me frappe dans le torse. Le lendemain, elle me parle comme si rien s'était passé. Quoi faire?
Oui, oui. Hey boy, c'est quand même de la violence domestique, là, ça. Là. Ça n'est pas à tolérer, bien entendu. Hein? Je pense qu'il faudrait inciter cette personne-là à aller chercher de l'aide en premier lieu, que ce soit au niveau thérapeutique ou au niveau de l'abus de substance. Puis je pense que de se confier à quelqu'un de confiance, puis de peut-être organiser une petite intervention, hein, de s'assurer que la personne comprenne qu'à partir de ce moment-ci, vous n'allez plus tolérer ce genre de comportement-là. Puis c'est à ce moment-là, quand ça se produit, c'est d'appeler la police puis la sécurité.
Mettre tes limites.
Mettre tes limites, qu'elles soient claires. Tu dis, à partir de maintenant, il n'y en aura plus de coups. À partir de maintenant, il n'y en aura plus d'insultes. Puis chaque fois que ça va se faire, c'est la police qui va intervenir. Mais je t'aime, puis je suis prête à travailler si tu es prête à régler de ton bord.
Mm-hmm.
Les chicanes fréquentes, est-ce que c'est un signe de séparation? Parce que, tu sais, il y a du monde qui s'ostine sur un peu tout puis rien au quotidien.
C'est ce que M. Dallaire disait.
Ça change
ouais.
rien.
Les petits bobos de la relation.
Ben, ah ouais.
Ça se peut des fois que tu t'égratignes et tu n'as pas besoin de mettre un plaster dessus?
Non, tout à fait. Ce qui est difficile, c'est quand les disputes sont récurrentes pour les mêmes choses. Quand ça fait, tu sais, tantôt, je disais, la femme va avoir tendance à répéter, là. Quand à toutes les 6 mois, tu dois reparler d'une telle chose parce qu'il n'y a rien qui se règle, ça, c'est un signe. Par contre, s'il arrive quelque chose du jour au lendemain, puis il s'est passé un malentendu, puis vous le réglez, ça ne rentre pas là-dedans. On parle de disputes qui sont récurrentes, qui reviennent constamment, en général, par rapport à l'éducation des enfants, la gestion des finances et la fréquence des rapports sexuels. C'est pas mal toujours ce qui revient, mais c'est possible. Comme tu disais tantôt, c'est tout à fait possible
ouais.
de parler de quel habit de neige on va acheter aux enfants puis quel entrepreneur on va choisir pour rénover le cabanon.
Ça se règle-tu, la fréquence des relations sexuelles?
Bien, ça se règle, oui, puis non. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher un juste milieu. Ça
dépend. Parce qu'il y a l'eau dans ton vin.
Il y a du monde qui a un libido dans le prolor jusqu'à la fin de leur jour, puis il y en a qui l'ont plus, cette fameuse libido-là. Ces couples-là, ça
c'est
doit
normal.
Être difficile.
C'est pas juste ces couples-là, c'est la majorité des couples qui avancent en âge et dont la femme atteint 40 à 45 ans environ. Veux, veux pas, c'est désir désir de libido sont moins élevés.
Ça veut dire qu'il me reste encore 10 ans avant qu'elle me lâche.
Bien, avant que tu te mettes à travailler un petit peu plus fort, peut-être.
Je suis brûlée.
C'est dur. Hein?
C'est de trouver le juste milieu. Mais oui, c'est la raison, une des raisons principales de séparation. C'est ça, je vous l'ai dit tantôt, la fille, Aradot, elle ne veut plus nécessairement se donner parce qu'elle n'est pas bien là-dedans. Puis l'homme, ben,
c'est pour ça que des fois, les filles laissent la permission à leur chum de partir puis d'aller voir ailleurs?
Bien oui, parce qu'elle ne veut pas. C'est une culpabilité énorme sur leurs épaules. C'est une pression énorme parce qu'elle voudrait bien donner, mais elle ne s'en sent pas capable pour plein de raisons.
Mais est-ce viable, un couple comme ça, à long terme? Un gars et une fille, bon, ils font plus l'amour ensemble, mais le gars a le droit d'aller faire l'amour ailleurs.
Chez certains couples, ça va fonctionner. C'est surprenant quand ça fait des années qu'on est ensemble puis que tout le reste est là, mais qu'il reste juste une question de fréquence ou de qualité de la libido ou des relations sexuelles. Alors oui, c'est possible. Est-ce que c'est commun de le voir? Non. Habituellement, il y a séparation, mais il y en a qui vont décider d'être outside the box puis de dire « OK, garde, on s'aime. On va essayer des affaires, puis si ça marche pas, ça marche pas. Puis si ça marche, ça marche. »
Mais c'est parce que le danger, c'est que le gars qui va voir ailleurs finisse par tomber en amour ailleurs aussi. Là.
Effectivement. Mais souvent, quand ça fait... tu sais, moi, je te dirais, j'en ai vu des couples comme ça. Puis quand ça fait 15-20 ans qu'ils sont ensemble, l'amour pour la conjointe est extrêmement fort et plus fort que le désir d'avoir quelqu'un dans son lit deux, trois fois par semaine.
Après, si tu expliques ça de même, tu vas comprendre?
Moi, je comprendrai jamais. Moi, ça, c'est, mes portes sont vraiment closes à ce niveau-là. Je suis plate.
Audrey, je t'aime.
Ouais, ben, tu m'aimes mal.
T'en trouveras un autre fait avec ça.
On s'en parlera quand t'auras 40 ans. On trouvera une solution rendue là.
Il y a peut-être ça aussi. Là. Les projets communs, c'est-tu un gros bémol?
Oui, c'est le troisième signe, je dirais. Donc, le parler au futur, ça nécessite de se projeter dans l'avenir. Si t'es pas capable de savoir où tu vas être, alors ça donne rien d'être en couple. Le temps partagé va être de moins en moins fréquent, surtout les temps de qualité, hein, où on va mettre notre sel à off, puis qu'on est là l'un pour l'autre. C'est normal que dans ton couple... chaque individu change et que leurs buts changent individuellement, mais il faut au moins qu'il y ait des buts communs qui soient toujours là. C'est la colle. On appelle ça la colle du couple. Moi, je le vois comme ça. Sinon, ben, le numéro 4, on en a parlé brièvement. J'y reviens rapidement. La perte d'intimité physique et émotionnelle. Donc, c'est les gens qui soit ne font plus l'amour du tout ou chambre à part ou qui font encore l'amour, mais qu'il n'y a plus de qualité de relation, que c'est un passage obligé. Plus qu'autre chose.
Je trouve que la perte d'intimité émotionnelle est plus difficile que physique.
Souvent, parce ça vient avec la confiance.
Oui, mais c'est parce que physique, j'ai l'impression que ça, tu peux rattraper le coup. Là.
Ouais.
Tu sais, tu peux, émotionnel, c'est ça. J'ai l'impression que là, c'est parce que c'est le petit cœur qui écope. Là.
Mais c'est parce que la confiance est souvent... ça a l'air niaiseux. Là. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais vous dire, là, mais ça vous arrive toutes les fois de mentir pour une niaiserie, juste pour éviter une dispute. Ou éviter un argument.
Et moi, non, parce que c'est des micro-mensonges.
Ça t'énerve?
Ça m'énerve de mon côté. Puis je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire, mais quand je pose une question, souvent, je retiens la réponse. Puis si tu as un vocabulaire différent, puis je me rends compte que dans une semaine, tu dis le contraire de ce que tu avais dit.
Tu retiens.
Tu m'as fait un micro-mensonge. C'est clair que tu es capable d'aller encore plus loin dans le mensonge.
Je même
mais je comprends qu'il y en a qui font des micro-mensonges pour acheter la paix. Si vous faites prendre, vous perdez la confiance de votre ami ou de votre conjoint.
Mais quand je parle de choses banales, là, je veux dire, bon, t'as-tu serré la salade, elle est morte sur le comptoir. Non, je l'ai serré, la salade, pour éviter qu'il y ait une chicane sur qui c'est qui va payer la prochaine pomme de salade. Tu comprends?
Oui, je comprends.
Souvent, les choses qui arrivent qui vont. Brimer la confiance, sinon l'adultère beaucoup. Puis bien là, quand la confiance est minée, la confiance, c'est comme les fondations, c'est les piliers. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus de couple, donc il n'y a plus de sécurité émotionnelle. Et c'est la cata. Donc, c'est pas tant l'intimité physique, mais les petits gestes d'affection, hein, le petit mot dans boîte à lunch, le texto en plein milieu de la journée, le petit sourire coquin, tout ça disparaît. C'est ça qui est lourd, surtout.
Hey, j'ai un commentaire ici, je ne sais pas si tu l'as lu, Audrey, de la dame qui a quitté son conjoint une première fois, puis avec la guerre, les avocats au travers
non,
de ça.
Non, vas-y, je ne l'ai pas lu.
Il est incroyable, ce commentaire-là. Salut, je confirme ce que vous dites. J'ai quitté mon conjoint la première fois. Ce fut tellement la guerre. Avocat, ça coûte extrêmement cher. Mm. C'était plus simple retourner avec lui. Nous avions une maison, 3 enfants et 20 ans de vie commune. J'ai attendu que ce soit lui qui décide que la relation était terminée. Ça a repris 5 ans. Rester pour les enfants, je ne croyais jamais être celle qui a fait ça. Enfin, il m'a quitté. Les enfants sont grands. temps. Ça m'a fait un gros ouf. Je suis maintenant célibataire et tellement bien. Et lui a tout de suite trouvé quelqu'un. Ce qu'il m'a dit au moment de la séparation, c'est qu'il allait être obligé de refaire sa vie. Moi, la mienne a tout simplement continué.
Voilà, ben voilà. Hey, je sais pas c'est quoi son nom, mais appelle-moi, on va aller au bingo, quelque chose. C'est la même chose que j'ai vécu. Je pense que, tu sais, souvent, certains vont avoir tendance à remplacer très rapidement, puis il y en a d'autres qui vont dire, non, regarde, je vais prendre le temps là, de m'occuper de moi un peu, là, puis de gérer mes affaires.
Ouais.
C'est ça. Puis je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Puis des fois, oui, on attend que l'autre nous quitte. Parce qu'on n'a juste pas le courage de
On n'est pas game.
Ouais,
moi, j'ai pratiqué l'auto-sabotage très longtemps. Là.
Oui, c'est vrai?
Oh, oui. Moi, honnêtement, là, quand une relation, mettons, me plaisait plus ou je n'étais plus particulièrement bien, j'étais bonne pour nous mener vers une séparation.
C'était moins compliqué de te faire sacrer là.
Oui.
Bien, dans un sens, oui.
Je ne sais pas que ça serait ça aujourd'hui, mais plus jeune, j'avais ce réflexe-là parce que j'ai jamais aimé faire de la peine. J'ai jamais aimé. Puis je pense que je voyais pas l'autre côté de la médaille, tu sais, la nécessité de... Tu sais, tu m'as dit, il y a quoi, une semaine, deux semaines, on avait des discussions, puis qu'il fallait avoir tu peux pas voler du temps à quelqu'un. Puis on avait parlé ensemble aussi, tous les trois, puis je trouvais ça intéressant, ça. Mais moi, j'avais pas encore cette notion-là, cette maturité-là. Fait que je me disais juste, ben regarde, je vais toffer tant qu'il faut que je toffe. Un moment donné, il va s'écœurer, puis il va mettre un point.
Hey, c'est raide de dire à quelqu'un que la relation est plus viable.
Oui.
Ben oui.
Tu t'assois en face d'elle.
Attends, c'est comme faire du bungee. Là.
Puis surtout quand, mettons, que la personne s'y attend pas.
Ben, c'est pas que tu l'aimes plus, t'es plus amoureux, mais c'est pas que tu l'apprécies plus comme personne. C'est vraiment rough, là.
T'as parti ton deuil à toi, il est fait. Mais oui. C'est ça le pire, c'est que t'as une personne qui a un deuil, est faite, qui est froide, prête à passer à autre chose. Puis t'as l'autre en avant qui vient de tomber du plafond, là.
Puis Hollywood vous beurre tellement d'histoires dans votre tête que votre premier réflexe, ou le premier réflexe des gens, c'est de dire, ah, ben t'as trouvé quelqu'un d'autre. Tu me remplaces, tu me mets à la poubelle.
Oui.
Mais c'est pas ça.
Mais il y en a aussi que c'est ça. Tu sais, qu'ils sont pas capables d'être seuls, puis qu'ils vont aller chercher tout de suite un rebound, qu'ils vont se relancer tout de suite dans.
Quand j'étais jeune, on disait que les filles, c'était comme les bébés singes, ils lâchaient jamais une branche en avoir après pogner un autre.
Exactement.
Ah, ben on disait pareil des jeunes hommes.
Oui.
Pas les gars.
Les hommes,
les
en
gars
général.
Sont pas de même.
Les gars sont les pires là-dedans parce qu'ils gèrent pas leurs émotions.
Oui, bien souvent.
C'est pas de statistiques, là, je parle
on
d'expérience.
On n'en a pas!
Pis, vous n'avez, vous les cachez.
Veux pas, les hommes, je veux dire, je le généralise encore, là, mais il y a beaucoup de choses qu'ils sont pas capables de faire par eux-mêmes dans une maison. Ils sont dépendants. Même nous, des fois, moi, j'étais dépendante de mon ex. La tondeuse, je veux même pas ça, la tondeuse de ma vie, toi. Il va me manquer un bras si je pars ça. Fait que, tu sais, c'est veux pas, on devient comme dépendant de son rôle, puis là, ben il faut réapprendre à faire tout ce que l'autre faisait. Puis il y en a qui vont juste aller chercher un remplaçant. Remplaçant pour faire la bouffe, pour faire le ménage, faire les courses, puis tout ça le plus rapidement possible.
Souvent, tu te rends compte de ce que ta conjointe faisait ou que ton conjoint faisait une fois qu'ils sont partis.
Ouais, ça, c'est le côté un peu... Non, mais
Souvent, pas mal tout le temps.
Tout le temps, mais tu sais, c'est peut-être là que tu peux essayer d'avoir des discussions avant, Zachy, puis tu t'en rends compte trop tard.
C'est ça, tu sais, tantôt, j'ai skippé un peu mon intro, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, tu sais, avant même d'attendre, là, allez-y dès que vous avez un doute. Parlez-en dès que le doute émerge dans votre tête plutôt que d'attendre des années. Je sais que c'est dur puis que ça va probablement provoquer un cataclysme temporaire, mais c'est ce qui va vous sauver pour le futur, je pense.
Besoin de solitude, est-ce qu'il y a un moment où ça peut devenir toxique?
Bien, en fait, c'est que souvent, on va se replier sur soi-même là, pour éviter les disputes. Hein. On va avoir tendance à faire chambre à part. On va avoir tendance à se rapprocher beaucoup plus de nos collègues, de nos amis, de nos enfants, ce qui est une bonne chose. Puis c'est souvent ça qui va nous permettre de passer à autre chose puis aller chercher un semblant de vie ailleurs, puis c'est eux qui vont nous aider dans le processus. Fait que c'est une bonne chose. Sinon, ben l'aspect d'être colocataire, là, c'est, on me donnait une pièce, chaque fois que j'entends ça en thérapie de couple, là, on est des colocataires, je pense que je serais millionnaire aujourd'hui.
Non, ouais. Hein.
Parce que les gens ont l'impression de gérer une entreprise familiale ensemble. Ils vont faire de l'éducation, ils vont faire la gestion du patrimoine puis du portefeuille en commun, mais souvent, ils vont faire chambre à part ou vont dormir dos à dos, tu sais.
Moi, je dis ça à mon chum quand on s'est pas vu depuis une couple de jours.
On est des colocs.
Ouais, mais
faudrait
encore
qu'on réactive la machine pour redevenir des amoureux, là.
Moi, elle me fait le coup à la maison, là, quand je travaille tout le temps. Elle me voit passer, elle dit, vous êtes qui, vous?
Ouais, mais oui. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison?
Je dirais, ce qu'il faut retenir, là, c'est que si t'en as rien à foutre de ce que l'autre fait quand t'es pas là, c'est signe qu'il y a grosse dégradation. Tu sais, souvent, quand ton conjoint va revenir, tu veux savoir ce qu'il a fait aujourd'hui, avec qui il a parlé, qu'est-ce qu'il a fait comme plaisir, tu sais, tout ça. Ça fait du sens. Mais si vous n'avez plus envie de savoir ça, alors c'est probablement... le début de la fin, si on veut.
Beaucoup de questionnements sur, pour plusieurs personnes dans les prochains jours.
Oui.
Espérant que Mademoiselle V vous ait aidé à cheminer.
Ben oui, n'hésitez pas à consulter, que ce soit en solo ou en duo, hein, avec un thérapeute, conseiller, peu importe. C'est ce qui va vous aider à passer au travers. Honnêtement, c'est ce qui fait la différence entre les célibataires en quête d'une nouvelle relation épanouie puis ceux qui sont en attente d'un peu n'importe quoi.
Oui, puis j'ai le goût d'apporter aussi la petite nuance rapidement que, tu sais, c'est sûr que si vous avez la majorité de ces points-là, questions à se poser, mais tu sais, il y a des affaires, des fois, qui sont passagères aussi, j'ai l'impression.
Tout à fait.
De ne pas en faire un plat non plus. Là.
Non, c'est des pistes de réflexion. Si jamais vous avez la majorité de ça, peut-être provoquer une petite discussion, mais ne vous en faites pas, là, allez pas tout de suite faire vos préarrangements de divorce. Ouais. Parlez-en avant.
Je termine sur ce texto. Et cool, Mlle V.
Oh! Oui, merci, Mademoiselle
merci.
V. Audrey, j'ai quelque chose à faire entendre.
Laisse donc.
Jeff Fada, je craigne des gueules. Je vous prenne tous ici, une par une.
Une par une.
T'es-tu prête?
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés.
Ça, c'est I am, là.
I am, ouais. Quand ils sont venus au centre Vidéotron, c'était juste complètement malade. Ils viennent au festival.
Écoute ça, toi.
Eh oui.
C'est de là ton style.
Il a toujours pas changé.
Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille. Je danse le Mia.
Ça dit-tu quelque chose?
Oui, oui.
Je danse le Mia.
C'est vraiment la plus populaire.
Je danse le Mia.
C'est un des deux noms qui a été annoncé au festival pour l'été prochain.
C'est le plus gros des noms.
Mais Robin Schultz, c'est quand même pas pire aussi.
Ben oui, ça c'est le DJ allemand numéro 1 actuellement. J'ai un passeport pour vous autres. 418-971-1021, 418-971-1021. Écrivez-moi le nom de la chanson par texto, puis je vous fais l'attribution du tirage dans les prochaines secondes. Fait qu'Audrey?
Oui?
Vas-y.
Tu chantes?
Elle a soudainement envie de pipi encore.
Non, j'en connais pas par cœur. Je m'excuse.
Voilà, j'ai pas le droit de la passer au courant complet.
Mais là, la question, ça pourrait être qui est l'autre tête d'affiche?
Non, c'est quoi le nom de cette toune-là?
Ah ben là, voyons, c'est tellement facile.
T'as Véro Bergeron là, qui regarde tout le temps les textos, qui va voir « Je danse le Mia ». Va dire « Qu'est-ce qui se passe? »
C'est écœurant. OK, parfait. 88 97
11h15, on vient. Le garage à Dan Gore.